Alors, comme cela a été dit, ce matin, nous débutons une toute nouvelle série intitulée « Objection refusée » basée sur le livre de Malachie. Et vous savez, c'est un livre dans l'Ancien Testament et un livre aussi très important. Parce que dans le Nouveau Testament, nous lisons que ces choses, en parlant justement d'Israël, en parlant des choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament, ont été écrites pour notre instruction. Alors si parfois nous lisons l'Ancien Testament et nous trouvons parfois des choses difficiles à comprendre, tout le système avec Israël, le sacerdoce, le livre Lévitique, les sacrifices, dites-vous une chose, à travers tout cela, Dieu nous parle encore, parce que le texte nous dit, nous pouvons tirer justement des instructions, même de l'Ancien Testament. Alors, j'espère que cela vous sécurise. Et l'auteur Malachie, son nom veut dire « mon messager » ou « le messager de l'Éternel ». Alors, d'autant plus, Dieu aussi, à travers Malachie, a un message pour nous, pour moi aussi et pour vous. Alors, Malachie, c'est un prophète, on appelle ça le prophète mineur. Pas parce qu'il y a moins d'importance, mais c'est parce que le livre est moins volumineux, comparé justement au livre du prophète Ésaïe ou Ézéchiel. Ici, il y a seulement 4 chapitres. Et nous avons préparé en conséquence 10 messages basés sur ce livre. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et c'est le dernier message de Dieu à Israël dans l'Ancien Testament. Il va y avoir 400 ans de silence avant la venue d'un autre messager, Jean-Baptiste, et qui va justement préparer le chemin du messager par excellence, le Seigneur Jésus-Christ, et qui va aussi pointer les gens dans la bonne direction. En disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors avant de plonger nos regards, on va vous mettre dans le contexte pour qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, ce livre est adressé aux enfants d'Israël. Vous allez vous rappeler, dans le livre de Esdras, Néhémie, les Juifs, après 70 ans d'exil en Babylone à cause justement de leur infidélité envers Dieu, l'idolâtrie, ils ont été emmenés en captivité, 70 ans, et à un moment donné, Dieu permet au roi, le roi Cyrus, justement de permettre aux enfants d'Israël de revenir dans le pays. Alors, ils reviennent pour justement reconstruire leur vie, un nouveau départ. Ils reviennent aussi pour reconstruire le temple. Et aussi, ils attendent le retour du Messie. Et dans leur tête, dans leurs aspirations, dans leurs attentes, le Messie allait revenir et établir le royaume de Dieu, régner sur Israël et les nations. Et ce sera une période de paix et de justice pour tous. Alors ils reviennent, ils sont très enthousiasmés, pleins d'attentes, l'avenir est pour eux justement glorieux. 100 ans plus tard, la réalité en Israël, le temple a été reconstruit, mais par rapport au temple de Salomon, aux yeux de quelques-uns, c'est un temple minable. Et même il y a des vieillards qui avaient vu le premier temple et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont pleuré tellement ils voyaient ça. Ils disent, c'est quoi ça? C'est ça notre temple? Heureusement, il y avait les jeunes d'une autre génération qui a vu cela et qui étaient contents quand même qu'il y avait un temple. Israël aussi à cette époque, 100 ans plus tard après le retour, n'est pas cette nation glorieuse qu'ils attendaient, c'est une nation minuscule, toujours sous la domination perse. Et le Messie manque à l'appel, il n'est pas là. Alors tous ces facteurs mettent en sorte que Israël vit une déception et un désillusionnement. Et qu'est-ce qui arrive avec, dans cette condition-là, il y a des répercussions. Et il y a un dérapage, et vous allez le voir en lisant le texte et en étudiant le livre ensemble, que leur relation verticale avec Dieu est sérieusement affectée. Il y a la corruption dans le culte offert à Dieu. Je ne vous donnerai pas trop de détails ce matin, on va le voir chemin faisant. Et les responsables, les plus coupables sont même les sacrificateurs, ceux qui devraient justement donner l'exemple au peuple, ceux autres qui sont les plus coupables. Et dans la relation horizontale entre Israélites et Israélites, il y a l'injustice dans le comportement les uns envers les autres. Alors, les choses vont mal. Envers Dieu, ça va mal. Envers leurs semblables, ça va très mal. Et là, comment est-ce que Dieu va réagir dans cette situation? C'est son peuple. Il avait amené ce peuple justement par son bras puissant de l'Égypte. Il les avait installés dans le pays promis. Il avait fait des promesses extraordinaires. Et les voilà maintenant dans une telle situation. Alors, Dieu intervient. Et ça, c'est le but de ce livre Malachie, de parler au cœur du peuple. Et la structure du livre, alors, on voit ce dialogue entre le peuple et Dieu, les débats, comme on peut les appeler. Dieu va faire une affirmation ou une accusation. Il va leur dire exactement ce qu'il voit dans leur vie. Et Israël va répliquer en exprimant son désaccord, remettant en question les propos de Dieu. Et souvent, on va lire dans le texte, ils vont dire, en quoi telle chose? Et Dieu, dans sa grâce, dans sa patience immense, va prouver l'appui, il va rejeter leur objection. Là, vous comprenez maintenant pourquoi la série s'intitule Objection refusée. Parce que Dieu va leur montrer exactement ce qu'il en est. Et ce matin, nous sommes confrontés avec la même réalité. Combien de fois dans nos vies nous avons des attentes à l'égard de Dieu? Ça peut être à propos de notre famille, nos enfants, notre santé, nos finances. Vous pouvez les nommer. Et nos attentes ne sont pas comblées. Et combien de fois peut-être cela vous est arrivé ou bien connaissez quelqu'un? Ou est-ce que la relation maintenant verticale avec Dieu a été sérieusement affectée? J'ai déjà entendu quelqu'un dire ceci, mais si Dieu est comme cela, parce que Dieu n'avait pas comblé une attente ou répondu, mais là je ne lui demande plus rien. Et vous savez, quand la relation verticale est affectée, qu'est-ce qui arrive? La relation horizontale aussi est affectée. Alors, comme je dis, Malachie, il y a un message pour vous et pour moi. Alors, ce matin, nous allons lire notre texte. J'ai appelé le message « Si Dieu nous a ainsi aimés » et c'est Malachie chapitre 1. Nous allons lire les versets 1 à 5, partie 1, parce que nous ne pouvons pas traiter ces 5 versets ensemble ce matin. On va prendre les versets 1 et le verset 2 et 3a. Alors lisons ensemble notre texte, Malachie, chapitre 1. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament, alors ça ne devrait pas être difficile à le trouver. Malachie, chapitre 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Affirmation. Et vous dites, réplique, en quoi nous as-tu aimé? Dieu répond maintenant, Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Et si Édom dit, Édom, c'est la nation qui est descendue de Ésaü, nous sommes détruits. Nous relèverons nos ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux verront et vous direz grand. Et l'Éternel par-delà des frontières d'Israël. Alors voilà notre texte pour ce matin. Et dans un premier temps, nous voyons, après ces répercussions qui ont affecté justement la relation horizontale et verticale, Dieu a un remède. C'est une déclaration d'amour. Oracle. Parole de l'Éternel à Israël par Malachie, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Mais il y a le doute. Et Israël, maintenant, va répliquer et vous dites en quoi nous as-tu aimé. Nous sommes de retour dans notre pays. Nous ne sommes pas cette nation puissante que nous devrions être. Comment est-ce que Dieu, tu peux dire que tu nous aimes? Nous avons notre temple, mais elle n'a rien avec le temple glorieux que nous avions avant. Dieu, comment est-ce que tu peux dire que tu nous aimes? Nous attendons le Messie, il n'est pas là. Dieu, comment est-ce que tu peux dire que tu nous aimes? Et Dieu va refuser cette objection. Je vous ai aimé. Et ce matin, j'aimerais justement regarder la réponse de Dieu. Et nous allons poser deux questions à ce texte. Comment Dieu a-t-il démontré son amour pour Israël? De quelle façon? Et deuxièmement, pourquoi? Quelle est l'implication? Pourquoi Dieu dit aux Israélites qu'il les a aimés? C'est un peu étrange dans toute cette situation où est-ce que ça va mal. La première chose qu'on voit venant de la bouche de Dieu à son peuple, c'est une déclaration d'amour. Avant d'attaquer les autres choses, il va le faire plus tard. Mais la première chose qu'il va cibler, c'est cette relation entre lui et son peuple, et lui, il va le dire, je vous aime. Alors, premièrement, comment Dieu a-t-il démontré son amour pour Israël? Alors, Dieu va montrer maintenant comment est-ce qu'il a aimé Israël. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Et là, il faut retourner dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 25, où est-ce que nous avons le récit de la naissance de ces deux nations. Il y a Ésaü et nous avons Jacob qui est mentionné dans Malachie. Et Ésaü, c'est le fils d'Isaac et de Rebecca. Isaac, c'est justement le fils d'Abraham. Il est le frère jumeau de Jacob. Et quand vous avez des jumeaux, des jumelles, c'est sûr qu'il y a un qui est né avant l'autre. Alors, Ésaü, c'est le premier-né. Il est le frère aîné. Et par conséquence, il devrait être l'héritier des promesses divines faites à Abraham et à Isaac par Dieu. Alors, deux Ésaü devraient venir justement, comme Dieu avait dit à Abraham, « Je te bénirai et ta postérité aussi sera bénie de toutes les nations sur la terre. » Et aussi, Israël, la promesse était aussi que par cette lignage d'Abraham allait venir le Messie. Alors, Ésaü, en étant le premier-né, devrait justement avoir ses bénédictions. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'aimerais vous dire de ne pas focaliser sur « j'ai eu de la haine pour Ésaü ». Nous allons traiter ça dans un autre message. Mais ce matin, focaliser sur « j'ai aimé Jacob ». Cependant, j'ai aimé Jacob. Et Romains chapitre 9 nous démontre maintenant pourquoi est-ce que Dieu a pu dire cela, qu'il a préféré aimer Jacob au lieu d'Ésaü. Et par la suite, de Jacob est venu cette nation Israël, que Dieu dit, vous êtes la prunelle de mes yeux, que Dieu chérit avec un amour incroyable, même si eux sont dans le doute. Alors voilà comment est-ce que dans Romains chapitre 9, nous avons l'explication de cela. Que l'amour de Dieu pour Jacob, au lieu d'Ésaü, c'est un amour souverain. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu n'était pas contraint. Il n'y avait aucune force, puissance extérieure de Dieu qui l'a poussé à faire ce choix. Et ça, c'est une chose qui était très importante à saisir dans notre relation avec Dieu. Dieu est souverain. Et il n'y a personne ici sur la terre qui peut dire à Dieu pourquoi tu agis ainsi. Alors il a choisi Jacob au lieu d'Ésaü parce qu'il est souverain et il faut l'accepter comme cela. Parce qu'il est Dieu. Et en étant Dieu, il a le droit d'être souverain. Nous sommes ses créatures et c'est à nous d'être soumis à justement ce Dieu souverain. Deuxième chose qui démontre son amour, c'est que ce choix justement de Jacob au lieu d'Ésaü était immérité. C'est la grâce. Sans dépendre des œuvres, Jacob ne méritait pas cela. Ésaü non plus, il y avait juste le fait qu'il était le premier-né, mais tous les deux étaient des pécheurs devant Dieu. Et si Dieu a décidé de choisir Jacob, c'était par pure grâce. Et c'était aussi un amour inconditionnel. Le texte nous dit que les enfants n'avaient fait ni bien ni mal. Dieu n'a pas regardé, même avant qu'ils soient venus au monde. Ils n'ont rien fait ni bien ni mal pour justement pencher la balance un petit peu dans une certaine direction. Il n'avait fait ni bien ni mal, et pourtant Dieu dit, « Jacob, je te choisis, je vais mettre mon amour sur toi, et tu vas devenir justement l'ancêtre des enfants d'Israël, et mon fils le sauveur va venir justement d'Israël. » Wow! Ça, c'est un amour extraordinaire, souverain, immérité, inconditionnel. Israël avait oublié cela. Qu'est-ce qui focalisait, c'est quoi? Leurs circonstances, la condition dans laquelle ils se trouvaient. Ils avaient oublié de regarder, voir comment est-ce que Dieu avait fait ce choix Et eux maintenant étaient le peuple de Dieu au lieu des Édomites qui étaient descendus d'Ésaü. Et ça aurait dû le garder justement dans une relation, qu'importe qu'est-ce qui se passait dans leur vie, mais dans une relation d'intimité et d'amour face à ce Dieu qui les avait choisis de cette façon-là. J'aimerais vous dire aussi ce matin, enfants de Dieu, que nous sommes aimés de la même manière. Qu'importe ce que nous sommes en train de vivre, et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train, un peu comme les enfants d'Israël, de remettre en question l'amour de Dieu pour vous, mais j'aimerais vous dire, c'est la même chose. Dieu nous aime de façon souveraine. Jésus va dire à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui je vous ai choisi. Pourquoi pas mon voisin? Pourquoi pas quelqu'un que je connais qui n'est pas au Seigneur? Si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez été choisi. 1 Thessaloniciens nous dit, Paul va dire aux Thessaloniciens, nous savons, frères bien-aimés, que vous avez été élus souverainement. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter cela? Rien. Deuxième chose, son amour, c'est immérité. Éphésiens chapitre 2 nous dit que Dieu qui est quoi? À cause de... qui est riche en miséricorde, à cause de son quoi? Grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par quoi? Grâce que vous êtes sauvés. Quelle bonne nouvelle! Et inconditionnel, Romains chapitre 8, Paul il va faire une déclaration extraordinaire. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que quoi? Vainqueurs! Par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que, quoi, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Wow! Vous êtes aimés de cette façon-là. Qu'importe ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes aimé de Dieu. Deuxième question maintenant. Pourquoi est-ce que Dieu dit aux Israélites qu'il les a aimés? Alors, on voit comment il a démontré son amour pour eux de façon extraordinaire en choisissant Jacob au lieu d'Ésaü et de faisant d'Israël son peuple. Mais il y a une implication maintenant, c'est ce que nous allons considérer. La deuxième question, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu, premièrement, première chose qu'il dit à Israël, remède pour cette situation, je vous aime. Mais vous savez, l'amour rédige notre relation verticale, et rédige aussi notre relation horizontale. Et ça, c'est la problématique. Dans ce culte qui était offert à Dieu, c'était un culte indigne de sa personne. Quelques exemples. Dans Lévitique, nous voyons comment est-ce que Dieu, à travers le sacrifice, démontre que sa personne devrait être honorée. Et quand les enfants d'Israël apportaient leurs offrandes, il y avait une spécification. C'était des bêtes qui étaient quoi? Les pures. Et voilà que Israël osait amener devant Dieu, à cette époque, des bêtes qui étaient aveugles, qui étaient boiteuses, infirmes, et offrer ça à Dieu. Ça, c'est un signe que la relation verticale, il y a une problématique. Et le comportement aussi envers le prochain, il y avait l'injustice. Dans la famille, il y avait des hommes qui divorcèrent leurs femmes pour aller se marier avec les femmes païennes. Dieu avait dit à Israël de prendre soin de l'orphelin et les veuves. Et à cette époque-là, ces personnes étaient négligées. Il y avait même des gens qui travaillaient et leur maître refusait de leur payer. Alors vous voyez comment est-ce que quand la relation verticale est brisée, comment est-ce que ça a eu des répercussions sur la relation horizontale. Et c'est pourquoi cela? Parce que leur perception de l'amour de Dieu, ils ne se sentent pas aimés. Nous sommes dans notre pays, nous sommes revenus avec des attentes, nos attentes ne sont pas comblées, alors Dieu, tu ne nous aimes pas. Et par conséquent, dans leur façon justement de relation avec Dieu, ils sont incapables d'aimer Dieu selon le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, pas de n'importe quelle manière, de tout ton cœur. Mais si ton cœur est rempli justement de doutes, si ton cœur te dit « Dieu, tu ne m'aimes pas », comment est-ce que tu peux mettre ça en pratique? Impossible! Le deuxième commandement aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'était aussi la même chose. Et nous ne pouvons pas donner ce que nous ne possédons pas. Ils ne se sentaient pas aimés de Dieu. Alors, pour donner à Dieu, dans leur relation avec lui, que ce soit dans leur adoration, à travers leur culte, c'était impossible de donner justement ce que Dieu, ce qui est digne justement de donner à Dieu, et dans leur relation avec leurs semblables, c'était impossible. Alors, en leur rappelant, maintenant c'est ce que Dieu vise en leur disant qu'il les aime, en leur rappelant son amour souverain, immérité et inconditionnel pour Jacob, leur ancêtre, Dieu cherche à inciter les Israélites à focaliser sur son amour pour eux. Et si les Israélites se sentent alors aimés de cette manière par Dieu, ils seront désormais capables en retour d'aimer Dieu et leur prochain inconditionnellement. Et ça, c'est extrêmement important à saisir. Ça, c'est notre cas. Et ça, c'était le cas des enfants d'Israël. Et ce matin, je fais justement l'application pour moi-même et pour nous. Nous avons une relation verticale avec Dieu. Et ça s'exprime de plusieurs façons. Nous l'avons exprimé d'une manière ce matin. Nous sommes venus, comme les mages, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ça aussi s'exprime par nos vies. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. La relation avec nos semblables, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais aussi comme je vous ai aimé. Alors ce matin, c'est important pour nous de faire un examen de conscience. Et regardez notre relation verticale avec Dieu, notre relation horizontale, et voir si ça fait défaut. Et si nous ne sentons pas aimés par Dieu quand nos attentes ne sont pas comblées, notre amour pour Dieu et notre prochain sera, il manque ici, pour conditionnel. Je vais être de bonne humeur et je vais venir ici et chanter quand Dieu me donne ce que je veux. Mais quand Dieu ne comble pas mes attentes, mais je vais le bouder. C'est exactement ce qui se passe Je ne peux pas avoir un cœur rempli d'adoration, d'amour pour Dieu, si je ne ressens pas qu'il m'aime. Alors, y a-t-il une solution à cette problématique? Nous vivons tous cela à un moment donné. Parce que nous focalisons sur les circonstances. Alors, est-ce qu'il y a une solution? J'aimerais vous dire qu'il y a une solution et ça se trouve dans Romains chapitre 5. Et j'aimerais justement vous laisser avec cela ce matin. L'apôtre Paul va commencer, il parle aux chrétiens, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, il commence là. C'est ça où ça commence. Avant, nous étions en chicane, il y a une relâche à cause de nos péchés. Dieu est en colère contre le péché. Nous sommes ses ennemis. Il y a une guerre entre le péché, Dieu et le pécheur. Et par l'intervention de Jésus-Christ, qui a subi la colère de Dieu à la croix, et nous avons mis notre foi seule dans l'œuvre, seule de Jésus-Christ, la colère de Dieu a été apaisée. Et maintenant, je peux avoir une relation avec Dieu à cause de Christ. Alors, nous avons la paix avec Dieu. Ça, c'est correct. Et vous avez expérimenté ça si vous vous êtes sauvé. Vous vous rappelez le jour où cela est arrivé. Et j'imagine aussi vous rappeler les sentiments d'amour que vous avez eu pour Jésus ce jour-là. Et la joie qui était dans votre cœur. Mais maintenant, chemin faisant, qu'est-ce qui est arrivé? Des attentes, souvent, non comblées. Et qu'est-ce qui arrive maintenant? Cette relation verticale, il y a des choses qui arrivent qui, justement, mettent des entraves, empêchent cette relation verticale de ce qu'elle devrait être. Mais il y a la solution, et c'est dans les deux versets qui suivent. L'amour de Dieu, et je ne parle pas maintenant d'un amour conditionnel qui dépend de nos circonstances, qui vient de mon cœur, quand Dieu me donne ce que je veux, ben alors je l'aime en retour. Non, je parle d'un amour de Dieu que nous avons vu envers nous, qui est inconditionnel. Cet amour-là est répandu dans nos cœurs. C'est là où on en a besoin. Dans nos sentiments de se sentir aimé. Mais par qui? Par le Saint-Esprit. Je ne peux pas justement par ma volonté ou mes efforts, justement, manufacturer cela, c'est impossible. C'est le Saint-Esprit qui met dans mon cœur, dans votre cœur, cet amour divin. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour des impies, et Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Deux choses. Que l'amour, ce dont nous avons besoin pour entretenir justement une relation correcte avec Dieu, pas comme Israël, mais un amour divin, inconditionnel, dans nos cœurs, c'est un amour subjectif. C'est plus que juste dans ma tête. Le cœur, c'est le siège des émotions. Quand je suis fâché, la haine, la tristesse, c'est des sentiments que j'éprouve. C'est la même chose aussi, il y a une dimension subjective à l'amour, des sentiments. Et la source, c'est le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, son travail, alors, c'est de vous équiper, de mettre cela dans votre cœur. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin de cet amour pour répondre justement à Dieu et de l'aimer comme ça se doit. Il est digne d'être aimé de cette manière-là, mais ça ne vient pas de nous, on est incapable de faire cela, parce que très souvent, notre amour est conditionnel, basé sur les circonstances. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné est là pour nous aider. Il vient à notre secours et il remplit notre cœur de ce type d'amour de Dieu qui descend et remplit notre cas, la source. Mais aussi l'amour divin, inconditionnel, il y a aussi une dimension objective. Alors Dieu, le Saint-Esprit, est prêt à faire ça. sa part. Mais vous et moi, nous avons aussi une responsabilité. Et le côté objectif, c'est que Christ est mort pour des impies. Et lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça fonctionne, cet amour divin, l'amour de Dieu? Ce n'est pas un amour humain qui est dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et tout de suite, l'apôtre rattache cela avec la mort de Christ sur la croix. Christ est mort pour des impies. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Focaliser sur la personne de Christ. Si vous voulez sentir toujours aimé de façon inconditionnelle, ne regardez pas aux circonstances. Si vous faites cela, vous êtes fait à l'os, comme on dit. Regardez à Christ. Et là, il nous pointe maintenant à la croix. Christ, qui? Le Fils de Dieu, celui qui est sans tache, sans péché, innocent. Celui qui est venu sur la terre parce qu'il nous a vus dans notre misère, exposés au jugement de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est plus que juste la mort physique. C'est la mort spirituelle, séparée de Dieu pour l'éternité dans la souffrance éternelle. Et Christ, par amour, est venu pour nous sauver, nous arracher de cela, comme on a vu ce matin. Et il est mort. Lui, il méritait pas cela. Ça, c'est le Fils de Dieu sans péché, sans tâche. Et là, il a pris notre place. Il a pris ma place. Il a dit, je vous aime. Je t'aime tellement que je vais aller subir la colère de mon Père à ta place. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est pour qui? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter cela? Des impies, des hommes et des femmes qui voulaient rien savoir de lui. Ils ont craché dans son visage. Ils l'ont cloué sur une croix. Ils l'ont arraché sa barbe. Et sur cette croix, il a dit, Père, pardonne-la. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qu'il nous donne, la paix est tombée sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est un amour divin, inconditionnel. Et quand nous focalisons sur cela, au lieu de nos circonstances, le Saint-Esprit dit à ton cœur, tu es aimé. Tu es aimé. Et là, tu te ressens aimé. Et tes affections maintenant ne sont pas basées sur tes circonstances. Ta santé, portefeuille, tes enfants, c'est ce Christ. Et le Saint-Esprit combine ces deux choses, subjectives, objectives, pour te donner cet amour divin dans ton cœur, ce dont tu as besoin. Et quand cela arrive maintenant, recevoir l'amour divin de Dieu et ainsi se sentir aimé inconditionnellement devrait être l'expérience quotidienne de tous les croyants. Oui, parce qu'on peut à chaque jour demander au Seigneur, même si le matin je me lève et je me sens sec en dedans, je peux dire, Seigneur, montre-moi encore une fois la croix, ton amour pour moi. Je veux ressentir, Seigneur, que tu m'aimes et montre-moi Christ à la croix, souffrant, mourant pour moi. C'est le désir de Jésus. Quand il a prié pour ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit à son Père? Que l'amour que tu as eu pour moi soit quoi en eux? Jésus a prié pour cela. L'amour que le Père a eu pour son Fils, c'était quelle sorte d'amour? Conditionnel? Non, c'est un amour divin. Et Jésus demande, avant d'aller à la croix, que ses disciples soient caractérisés par le même type d'amour. Il veut que cet amour inconditionnel soit en eux, parce qu'il sait qu'on en a besoin. Pourquoi? Parce que on va le voir tantôt. Deuxième chose, c'est un cible du diable. Job chapitre 1. Satan vient devant Dieu, avec le Fils de Dieu, et qu'est-ce qu'il dit? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, et juste, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan dit, wow, 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 minute, Dieu, minute. Est-ce que c'est une manière désintéressée que Job sert l'Éternel? Étends ta main, enlève ses enfants, enlève sa maison, enlève son bétail et je suis certain que quoi, il va te maudire en face. Il accuse Job d'avoir quoi, un amour conditionnel pour Dieu. Et nous savons que Job, non, c'était pas ça du tout. Et c'est ça que Satan, donc, ses attaques aussi à chaque jour, va nous dire. Dieu, il t'aime pas parce que. Et quand il dit ça, tu dis non, regarde. Satan, regarde la croix. Je suis certain que mon Dieu m'aime. Et quand nos cœurs sont remplis avec cela, je termine avec ceci. Notre relation verticale est exactement ce qu'elle devrait être. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et nous ne l'aimons pas de façon inconditionnelle. Le Saint-Esprit nous donne cet amour divin. L'amour de Dieu est dans nos cœurs. Alors on peut redonner à Dieu un amour qui est digne de lui, un amour divin. Mais ça vient de lui en premier. En redonnant à Dieu l'amour divin que nous recevons de lui, nous gardons le premier commandement, nous pouvons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de notre pensée. Et nous pouvons lui rendre un culte qui est agréable. Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit en vérité. Et dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit dans l'adoration, que ce soit ma façon de vivre, avec rempli de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit, parce que je contemple la croix, ça, je vais remplir le premier. Et ça, c'est le but pour lequel Dieu nous a créés, premièrement. Et j'ai mis deux cœurs. Le grand cœur, c'est le cœur de Dieu. Le petit, c'est mon cœur. Et à chaque jour, j'ai besoin que Dieu mette son amour divin dans mon cœur. Parce que Jésus, même, il est mort à la croix pour moi. Et finalement, dans notre relation horizontale, on veut régler ça aussi. Dans le mariage, c'est pour les deux, mais c'est à l'homme de donner l'exemple. Marie, Éphésiens 5, aimez vos femmes, comment? Avec un amour conditionnel, non, comme Christ a aimé l'Église. Hey, wow, la barre est haute. C'est un amour quoi? Divin, inconditionnel, mais ça vient d'où? Par le Saint-Esprit, dans nos cœurs, quand on se sent aimé parce que Jésus est mort, pour moi, il m'aime. Je peux maintenant donner cet amour à mon épouse. Et vice-versa aussi. Dans l'Église, ceux qui prennent soin du troupeau, oui, il y a des qualifications, mais il y a aussi un autre aspect. Quand Jésus voulait confier ses brebis à Pierre, il a posé une question. Pierre, fils de Simon, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et il n'a pas dit, c'est le mot filio, là, comme OK, on a une amitié. Non, c'est agapé, c'est un amour profond. Et comment est-ce que Pierre va être qualifié pour cela? C'est seulement s'il est rempli de l'amour divin que le Saint-Esprit met dans son cœur. Alors, c'est important aussi que des bergers, des pasteurs, vivent dans cet amour pour être capables de prendre soin. Et en ce moment-là, Christ dit, OK, tu peux prendre soin de mes agneaux. Prends soin de mes brebis. Les croyants envers les croyants, Jean chapitre 13 et Jean chapitre 15, aimez-vous les uns les autres, mais comme je vous ai aimé. Comment est-ce que Christ nous a aimés? De façon inconditionnelle, avec un amour divin. Alors si je veux justement aimer mon frère, ma soeur, il faut que mon cœur soit rempli de l'amour divin, pas humain, inconditionnel, et ça vient justement encore une fois par le Saint-Esprit, parce que je focalise sur la croix, je suis aimé. Je reçois l'amour de Dieu, je ne peux plus le donner. Et Jésus a donné l'exemple à Jean 13, sachant que son temps était venu de passer de ce monde à son Père, qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis le comble de son amour pour eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a servis. Laver leurs pieds, c'est un exemple. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amour divin. Si on avait ça, il n'y aurait pas de problème. Okay. Et dans la communauté, on a responsabilité envers ceux du dehors, évangéliser, faire des œuvres de bienfaisance, démontrer l'amour de Christ. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 5, l'amour de Christ nous presse. Et c'est comme ça qu'il a rempli son ministère. Alors, le défi est grand. Je termine avec ceci. Je vous laisse avec une application pratique. Malachie, messager de l'Éternel, si Dieu vous a parlé comme il m'a parlé, deux choses à faire. Cherchez sa face et demande au Seigneur de montrer votre cœur. Et si vous voyez qu'il y a des choses dans votre cœur qui vous empêchent justement d'avoir cette relation que Dieu désire d'avoir avec vous, vous pouvez toujours, et c'est toujours possible, de demander pardon. Et deuxième chose, demande-lui à chaque jour de vous montrer de plus en plus l'amour de Christ pour vous à la croix. Il va le faire. Et le Saint-Esprit va faire son œuvre. Vos cœurs seront remplis de joie et de paix et d'amour pour Dieu parce que vous allez vous sentir aimé. Et si vous n'avez jamais fait le premier pas, aimer Dieu, impossible parce que si vous ne connaissez pas, mais c'est encore la croix. Christ est mort pour les impies et à la croix, Jésus, par amour, a donné sa vie pour vous. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous repentir de vos péchés. Seigneur, je suis pécheur, mais tu m'aimes, tu es mort pour moi, j'accepte en don d'amour. La semaine prochaine, ça va être notre frère Adama, ce message pour le Saint-Valentin. Mais si Dieu tarde et nous ne sommes pas dans sa présence, le 16 février, nous allons... Ça, c'est le côté facile. Comment ça m'explique maintenant? J'ai eu de la haine pour Isaïe. C'est pas évident. OK, ça, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton amour pour nous, vaste, insondable, souverain, immérité, inconditionnel. Seigneur, nous voulons vivre alors dans cet amour et aide-nous, Seigneur, dans notre faiblesse, dans notre petitesse, de regarder toujours à la croix et de te voir que tu nous aimes et de se sentir aimé. Sépare-nous maintenant avec ta bénédiction. Nous demandons au nom de Jésus.